Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Fait signe à un serveur. Un homme dans les 30 ans, grand, mince, cheveux châtains, habillé d'un pull et d'un pantalon noir. Il lui dit « Deux citrons pressés, s'il vous plaît. » Et c'est pressé. Le serveur s'éloigne et lui demande « Tu es sûr que cette femme est ta belle-mère ?» Il lui dit « Bien sûr. Pourquoi ?» « Eh bien, parce que... »
Écoute, tu vas venir.
« Tu parais bien jeune. » Elle semble se comporter avec toi d'une façon étrange. Il lui dit, mon père s'est marié avec elle après la mort de ma mère. C'est elle qui voulait mon père malgré la différence d'âge. Elle lui demande, et qu'est-ce que fait ton père? Il lui dit, il a décédé. Elle lui fait, je suis navré. Il lui dit, je n'aimais pas mon père. Elle lui fait, comme tous les garçons, ça te passera. Le serveur arrive avec les boissons et réétudie. Ce n'est pas trop tôt. Rien et s'éloigne. Ils boivent en silence leurs boissons. Elle lui dit, faut que j'y aille. Déjà ?
Écoute, tu vas venir.
Oui. Nous reverrons quand ? Elle lui répond, je sais pas. Sûrement oui, parce que nous avons les mêmes cours. Mais en privé, je ne sais pas. Elle sourit, se lève. Il est triste. Elle lui dit, ne soyez pas triste. D'ailleurs, je ne me vois personne d'autre.
Écoute,
je n'aime pas les garçons. Je veux vivre sérieusement. Me marier et être heureuse sans d'histoire. Il lui dit, c'est comme moi. Venez. Il se lève. Vont vers le serveur pour payer. Il donne sa carte. Le serveur la met sur l'écran et la lui rend. Puis, il quitte le café. Il lui demande, je vous raccompagne? Elle lui dit, jusqu'en bas, vers les quais. Et il se met en route. et lui dit, il faudra que vous me disiez pourquoi vous êtes si en retard dans vos cours. Pourquoi avez-vous tant redoublé? Il lui dit, parce que le destin voulait que l'on s'en rencontre. Et si je n'avais pas redoublé, je ne vous aurais pas rencontré. Elle lui dit, et vous auriez connu des filles de votre âge. Il lui dit, les filles de mon âge ne m'intéressent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Elles sont trop sûres d'elles. J'aime mieux les filles plus jeunes ou un peu plus âgées. Elle lui fait, comme votre belle-mère. Il lui dit, pourquoi? C'est ma belle-mère. Elle lui dit, elle ne vous plaît pas? Il hausse ses épaules et lui dit, je ne sais pas, mais si vous l'aviez rencontrée comme ça, je ne peux pas savoir. Non, c'est ma belle-mère. C'est comme si vous me disiez, je ne sais pas, que vous rencontriez votre père comme ça et qu'il ne soit pas votre père. Il lui dit, moi je trouve mon père très séduisant. Il lui dit, comme toutes les filles. Ils sont arrivés sur les quais. Elle lui dit, vous allez me laisser là. Pourquoi? Elle lui dit, parce que j'aime mieux. Il soupire et lui fait, bon alors, à demain, au lycée. Et il se dirige du côté de la cité. Il n'ose pas regarder en arrière, de peur de la gêner et de la mettre en colère. Il se dit, c'est la fille qu'il me faut. Belle, sage, intelligente, riche et qui rêve d'être la femme d'un homme sans plus. Bien sûr, elle voudra peut-être des enfants. Eh bien, elle en aura. C'est elle qui s'en occupera. Et il se met à broder son avenir. Bien sûr, Frédéric sera là. Il vivra près d'eux. Et il pourra le rejoindre quand il voudra. Son frère, c'est comme une partie de lui-même. C'est sa force, sa chose cachée, c'est son plaisir suprême. Jamais au connaître ne lui en donne autant, ne lui donne autant de joie. C'est pas osé dire. Plaisir. Mais c'est le mot juste. Même avec Carole ou autre. Parce que son frère, c'est lui. Il le connaît depuis toujours. Il a vu se développer, grandir. Il sait tout de lui. Il se demande ce que fera son frère plus tard. Peut-être qu'il prendra la succession de son grand-père. Normalement, cette succession est pour lui, l'aîné. Mais si c'est son frère qui a la succession, il l'aura, lui. En entrant chez son grand-père, il va directement au bureau de son grand-père pour téléphoner. Là, il prend le téléphone, fait un numéro. Allô? Allô? C'est toi, Carole? C'est moi. Il ne faut plus que tu viennes à la sortie de mes cours. Ça fait jaser. Oui, elle est très bien, cette fille. Et tu ne vas pas m'empêcher d'avoir des relations et même de me marier. Ah, pas de menace, hein? Il est mort et enterré. Laissez-moi tranquille. Moi aussi, je peux te faire santé. Je peux dire à grand-père que tu veux me dénoncer et tu verras. Tu sais que les amis de Franc Blanc entrent dans le club et les ennemis du club termine toujours en bouillie pour chien. Pont-toi plus. D'alimentation. Animal de luxe. De luxe. Ça veut dire pas de la cochonnerie comme du poulet pourri, mais de la bonne chair de qualité. Alors, toi aussi, reste tranquille. Et il raccroche. Du bureau pour aller à sa chambre. Carole continue à le surveiller. Il est à lui et à personne d'autre. Elle ne veut pas avoir fait tout ça pour rien. Eric retrouve Florence au cours. Il la trouve délicieuse. Et comme il veut en faire sa femme, il ne la violentera pas. En tout cas, pas pour le moment. Florence, elle le trouve Eric très beau garçon, mais un peu crampon. Et est peut-être un peu trop homme, joue trop les hommes. Ce qu'elle aime le plus en lui, c'est son visage et son corps. Ils ont le côté visible de la bête, une bête dangereuse, peut avoir un beau physique, une gueule agréable à voir aussi. Et puis, il ne peut pas l'aimer autrement parce qu'il ne se dévoile pas, ne dévoile pas ce qu'il est. Va-t-elle être séduite par la bête ? Par la bête. Va-t-elle rentrer dans cette famille ? Dans cette fausse famille ? Dans cette fosse aux serpents ? Les gens de cette famille qui restent unis à cause des crimes qu'ils ont faits ensemble, à cause de leurs secrets. Qui est pur dans cette famille ? Frédéric l'était, mais depuis qu'il a connu Gilles, il ne l'est plus, car lui aussi a du sang sur les mains. Et prépare d'autres crimes. Carole est liée à la famille par son crime. Et Eric, qu'elle veut, parce qu'elle pense qu'il ne peut être qu'à elle. Elle surveille Eric, se cache pour le voir à la sortie des cours. Elle voit qu'il est avec Florence. Mais la plupart du temps, elle se sépare de suite. S'ils ne se séparent pas, elle les suit. Elle a peur qu'ils entrent quelque part, à l'hôtel, un immeuble. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'il soit amant. De temps en temps, elle téléphone à Eric pour avoir de ses nouvelles et lui demander de venir au studio. Eric n'a pas envie, mais se dit que s'il n'y va pas, s'il dit toujours non, elle risque de se mettre en colère. Et c'est pas le moment d'avoir un scandale. Alors, Pour la calmer, il va la voir.
Il sonne à la porte du studio. La porte s'ouvre. C'est elle. Entre. Il entre. Elle ferme la porte. Elle est déjà en déshabillé rose pour aller plus vite. Et lui demande « Tu veux boire quelque chose ?» Il lui dit pour lui faire plaisir « Oui, merci. » Et il va s'asseoir dans un fauteuil. « Qu'est-ce que tu veux boire ?» « Un bourbon. » Elle va le lui chercher. Elle revient avec deux verres et la bouteille. Fait le service. Lui tend un verre. Merci. Et elle s'assoit. Elle s'assoit en face de lui. Boivent une gorgée. Elle semble triste. Elle s'attendait à une rencontre plus gaie, plus heureuse. Là, elle sent qu'il est là, comme ça, pour lui faire plaisir, et qu'il est déjà parti. Il s'ennuie. Elle est furieuse. Oui, il s'ennuie. Comment un jeune homme peut-il s'ennuyer près d'elle en sachant qu'ils vont faire la chose ? Et furieuse contre cet ennui. Pour qui se prend-il ce minus de dédaigner une femme comme elle? Il y en a des milliers qui seraient bien contents d'être à sa place. Puis, une pensée lui vient comme ça et qui lui fait très mal. Peut-être qu'elle n'est plus désirable, qu'elle est devenue vieille. Oui, qu'elle est devenue vieille. Oui, qu'il la voit vieille. Elle se dit que c'est terrible pour une femme de ne plus se sentir désirable. L'on voit que l'on a vieilli lorsque les autres vous regardent plus et qui s'ennuient près de vous. Vous sentez que c'est le début de la fin, qu'il n'y a plus de retour en arrière. On ne peut plus se dire mon amant m'a quitté, mais j'en aurai d'autres. Là, c'est mon amant m'a quitté, mais c'est fini. J'ai terminé ma vie amoureuse. Maintenant, je vais m'occuper de pâtisserie, de jardinage. Il y a des méchancetés sur les femmes, surtout celles qui ont eu une vie amoureuse. Parce que vous ne pouvez plus en avoir. Et se dit, pas avoir une vie amoureuse. J'ai tout fait, vous, pour avoir une vie amoureuse. Même tuer mon mari. Et pour en arriver là, un blanc bec qui s'ennuie près de moi. Maintenant, si j'ai des moments, ce sera avec des vieux monsieur à cheveux blancs. Elle lui dit, tu ne dis rien? Il lui dit, non, je n'ai rien à dire. Elle lui demande, et ta copine, elle va bien?
Il est tout rouge. Et il était venu pour éviter une scène, et voilà qu'elle va en faire une. Il lui dit, oui, très bien, mais je suis là. Elle lui demande, pourquoi? Il lui répond, parce que tu me l'as demandé. Elle lui dit, pas pour ton plaisir. Il ne lui répond pas. Elle lui dit, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il ne dit rien. Elle lui dit, parce que si tu veux, on peut aller là-bas. Il faut y aller de suite. Décide-toi. C'est pour toi que je le dis. Parce que moi, il se dit, moi donc. Mais si je ne le fais pas, elle va broyer du noir et peut-être faire des bêtises. Alors il vaut mieux lui en donner le plus possible pour qu'elle soit assoupie et pour que ça lui suffise pour plusieurs jours. Il se lève et lui dit, on y va. Elle pose son verre et se lève. Il va vers le lit. Elle quitte son déshabillé et sa chemise de nuit. Elle est nue et s'allonge sur le dos. Et la voilà prête. Lui se déshabille. Une fois déshabillé, se dit, allons, un bon coup. Demi-heure plus tard, épuisé, il est allongé près d'elle sur le lit. Il voit qu'elle est comblée, elle sourit. Il se dit, c'est ça qui lui manquait. Lui voit ses formes de femme et compare avec Frédéric. Et puis, elle a des fesses. En les touchant, elles sont un peu rugueuses. Elle lui dit, avec le sourire, « Il faut nous lever, il est temps. » Elle lui donne un baiser sur le front. « Tu es un véritable amant. » Et elle se lève. Il soupire et se lève. Il s'habille en vitesse. Ils n'ont pas le temps de se laver. Une fois habillé, elle lui dit, « Allez, je me sauve. » Il lui donne un baiser sur la joue. Elle quitte la pièce. Lui surpris, il pense. La voiture est remise en route. Et il sort du studio. Il continue avec elle dans la chambre de le faire le soir. Il ne peut pas s'en passer. C'est comme un vieux vice, une vieille habitude. Mais le vice d'habitude, c'est plutôt elle que lui. Lui, son vice, son habitude, plutôt son vice n'est pas son habitude, parce que il aime toujours, il a toujours du plaisir avec son frère, c'est pas pareil. C'est plus fort qu'une habitude. Frédéric au lycée, un jeune homme vient à lui.
Je sais pas à quelle place je suis. Avec Robert, je sais pas. Tu vas le grand donner là, le manteau, tout ce qu'il a.
Il est grand, mince, cheveux noirs, visage grossier, est habillé d'un blouson et d'un jean. C'est un jeune que le lycée a été obligé de prendre pour faire social, mélange de classes. En réalité, les classes ne se mélangent pas. Les deux ou trois jeunes, soi-disant sociaux, et qui ne le sont pas en réalité, mais qui le sont aux yeux du lycée, n'ont aucun rapport avec les autres élèves. Ils ne s'habillent pas comme eux, ne vont pas dans les mêmes endroits, n'ont pas les mêmes amis,
Alice,
ne connaissent pas les mêmes choses.
Ça a marché. Allez, ça a marché.
Ils n'ont pas le même vocabulaire.
On est ensemble.
Et c'est sûrement bien que les classes ne se mélangent pas. Parce que certains apprendraient des choses et parleraient d'une façon très typée. Donc Frédéric est surpris que ce jeune de la jungle vienne le voir. Le jeune lui dit salut, bonjour. Le jeune lui dit, moi je m'appelle Laurent, et toi, Frédéric. Laurent lui dit, c'est idiot, on ne se parle pas. On est du même lycée, on devrait se parler, non? Frédéric ne dit rien. Il n'a rien à dire à ce type qui vient d'une jungle ou de banlieue quelconque. Il est au lycée en 4, c'est justement pour ne pas être mélangé et travailler en paix. Il y a déjà quelques fils de bourgeois qui, sans canaille, et pour cela, prennent des airs de rappeur. La radio et la télévision est pleine de sauvagerie. La jungle et dans la ville. Bien sûr, c'est lui qui pense à tout ça. Mais lui est devenu, grâce à un bourgeois, une bête tueuse. Une bête de jungle. Mais une bête de jungle qui a comme jungle et qui préfère vivre caché dans la ville. Et puis, il est déguisé sous l'aspect d'un garçon bien sage. Laurent lui dit, tu es coincé ou émancipé? Frédéric vexé, c'est justement parce qu'il se sent vexé et bête qu'il a posé cette question, lui répond. Non, émancipé. L'autre lui dit, alors tu as déjà essayé certaines choses?
Bien sûr. Le plus de bande.
Il n'est pas là, monsieur.
Et pour plus la chose, tu dis, je ne dois pas te le dire. Laurent lui dit, tu as raison de ne pas me dire. Ça ne se dit pas. Et lui dit, alors pourquoi tu me poses cette question? Pour voir si je pouvais te faire confiance. Parce que moi, je peux t'en fournir ce dont tu as besoin. Il y a un prix abordable. Et lui demande, et c'est quoi? Et tu dis, la blanche, de la vraie, de la bonne. Alors ça te dit? Frédéric se dit, je connais à peine, je parle de ça. Il lui dit, je ne sais pas. Et tu dis, si tu en veux, tu peux venir chez moi. Je t'en vendrai. Frédéric lui demande, et c'est où chez toi? Le jeune lui dit, en semaine je reste à Paris. Ça m'évite de prendre le RER tous les jours, puis ça coûte cher. Mon oncle qui travaille dans les bâtiments chez Franblanc et qui est obligé de loger sur le chantier me prête sa chambre. Elle est à Montparnasse, rue, au numéro 2, au deuxième étage. Frédéric lui dit, je serai mon souvenir si j'ai besoin de quelque chose. Merci. Et il s'éloigne. Il va chez Gilles, seul à l'interphone. Oui, dit la bonne, je suis Frédéric. Elle lui dit, entrez. Elle le connaît et il entre dans l'allée. Et va prendre l'ascenseur. Une fois avoir pris l'ascenseur, il va sonner à l'appartement de Gilles. La porte s'ouvre, c'est la bonne. Bonjour monsieur, bonjour. Elle ferme la porte derrière lui. Il lui demande, Gilles est là? Elle lui dit, oui, il est au salon. Il y va. Frappe à la porte. Entrez, il entre. Gilles est assis et un livre. À ses pieds. Frédéric va à lui. Salut, tu étudies? Gilles lui dit. Oui, un peu. Je me mettais en avance. Et pour se mettre en avance, il faut lire les dernières parutions sur le sujet. Comme ça, on sait plus de choses que le prof. Il faut aller plus vite que les autres. Une année scolaire égale pour moi 2 ou 3. Parce que j'étudie à fond les sujets. Tandis que pour les autres, on les découpe. On les tranche. Pour moi, pour nous en donner chaque année un peu plus. Tu comprends? Oui, Frédéric s'assoit. Il s'est assis près de lui et lui dit, cet après-midi, entre les cours, un des corps social a eu le culot de venir à moi. J'étais furieux et curieux, furieux qu'il ose vouloir me parler, ce minus de banlieue, et curieux de voir ce qu'il allait me dire. Quel sujet de conversation pouvait avoir ce type comme lui. J'ai lui fait, il t'a parlé? Oui. Et alors, Frédéric lui dit, il a eu le toupet et de me proposer de la drogue. Et
C'est bien lui, ça. Gilles lui dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je lui ai dit que je verrais comme ça. J'étais tellement surpris, tu comprends? Qu'on me propose une chose pareille, Gilles lui dit, ça peut être intéressant. Comment ça? Gilles lui dit, on peut la lui voler et le tabasser pour lui apprendre à vivre. On peut le voir quand? Frédéric lui dit, il m'a donné son adresse. Gilles rigole et lui dit, ce con! On va le tabasser tranquillement chez lui. C'est mieux que dans la rue. L'on risque rien. Frédéric lui dit, tu veux de la drogue? Tu veux en prendre? Gilles lui dit, non, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça pour me défouler. Mais c'est juste pour tabasser le mec. On y va quand chez ce mec? Frédéric lui dit, je ne sais pas, demain si tu veux, après les cours, moi je veux bien rigoler. Il en crevera peut-être. Frédéric se dit, si je pouvais droguer mon frère. Et le lendemain après-midi, à la sortie des cours, ils vont tous les deux à Montparnasse. Arrivés dans le quartier, ils trouvent la rue et le numéro. La rue, c'est une petite rue étroite, avec des immeubles lépreux. La chaussée a encore des pavés. L'immeuble est gris, sale, délabré. La porte en bois, étroite, peinte à marron sale. Ils entrent dans l'allée. C'est sombre et étroit. Frédéric dit, c'est au deuxième étage. Ils vont prendre des escaliers. Au deuxième étage, il y a deux portes, mais il n'y en a qu'une qui a un nom. Frédéric sonne à cette porte. Ils entendent des pas. La porte s'ouvre. C'est Laurent, habillé en t-shirt et caleçon. Il est surpris. C'est toi? Oui, tu m'as dit de passer. Eh bien, voilà. Laurent lui dit. Et l'autre? Frédéric lui dit. C'est un copain. Lui aussi est intéressé. Tu peux lui faire confiance? Il ne dira rien. Et puis lui et moi, c'est la même chose. On est unis. Laurent leur dit. Entrez. Ils entrent. Il fait sombre. Ça sent une drôle d'odeur. Il leur dit. J'essayais un échantillon. Très bon. Venez. Il les mène. C'est une grande pièce avec un lit à deux places, défait. Une table basse avec des tas de choses pour se préparer des trucs. Puis un coin évier avec un côté un réfrigérateur. Dessus un four. De tout côté, de l'autre côté, il y a une armoire penderie, sans âge en bois. Laurent lui dit, allons nous asseoir. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont s'asseoir sur le lit. Alors, tu veux venu en prendre? Frédéric lui dit, oui. Combien? Je ne sais pas. Tout ce que tu as, ça m'évitera de revenir. Mon ami et moi, nous faisons des soirées. Tu comprends ? Laurent lui dit, ça fait un peu ringard. Être 60 ans plus tard, arriéré, grand-parent. Gilles lui dit, oui, mais tu sais, nous dans notre milieu, on est obligés. C'est de cacher certaines choses par des fêtes innocentes. Un fils ambassadeur qui se drogue, ça ne fait pas bien, même s'ils le font tous. Avant, les jeunes qui se droguaient, les plus c'étaient les bourgeois et surtout les médecins. Ils étaient contre qu'on donne de la morphine aux malades pour éviter qu'ils souffrent, mais pour eux, ils en prenaient, oui. Et beaucoup de médecins étaient morphimanes, et le reste aussi. Laurent lui dit, oui, eh ben, eux, ils avaient la chose gratuitement. Ils prenaient dans le stock de l'hôpital ou la clinique. Frédéric lui dit, tu montres ce que tu as ? Laurent lui dit, si vous voulez en goûter, je peux vous montrer la qualité. Non, pas la peine. On te fait confiance. Laurent se dit que ce sont des jeux de bien. Il se lève, se baisse et enlève un bout de plancher. Pour sortir une boîte en métal de gâteau sec. Avec la boîte, ils s'assoient entre eux. Gilles se dit, j'ai bien fait qu'il me demande, de lui demander qu'il me montre la drogue, qu'il me donne la drogue, parce que ça aurait été difficile de retrouver la boîte en métal. Voilà ce que j'ai. Il ouvre la boîte et lui montre. Il y a 20 paquets de sachets blancs. Frédéric lui demande, et ça fait combien ? Laurent lui donne une somme. Frédéric lui dit, c'est cher ? C'est le prix ? Frédéric se dit, eh bien, de toute façon, il faut que je les prenne. Je prends la boîte. Et il la met à terre. Puis Frédéric et Gilles se lèvent de leur côté, font tomber à la renverse Laurent. Hop! Et tomber à la renverse
et le maintiennent.
Le
maintiennent
bien.
Mais qu'est-ce qu'il y a ?
Avec les bras.
Gilles lui dit. On va te tuer. Mais pourquoi ? On ne peut pas faire autrement. Nous n'avons pas d'argent. Lâchez-moi ! Il essaye de sortir de leur emprise. Mais il ne peut pas. Il leur dit, prenez la chose et laissez-moi tranquille. Je lui dis, c'est ça. Après, tu auras le dire à tes mecs. Non. Nous, notre drogue, c'est de tuer. On a chacun son truc, tu comprends ? Ça nous fait jouir. Chacun son truc pour jouir. Tu comprends ? Laurent lui dit, allez, jouir ailleurs. Non, pourquoi ? On est très bien ici. Et on ne risque pas d'être dérangé. C'est très bien. On pourra te tuer. On pourrait te tuer en te faisant bouffer toute ta drogue. Ce serait très drôle. Et tu mourrais dans les vapes. Mais non. Ce serait beaucoup trop long. Alors on va te tuer autrement. Laurent commence à avoir peur et se dit que ce sont des fous. Je lui dis, et puis, Il faut te donner une leçon, tu comprends? Toi, un Minus, des cités, tu oses parler à un des nôtres et même lui proposer des choses? Non, tu te prends pour qui? Laurent lui dit, je demande pardon, je ne savais pas. Malheureusement, c'est trop tard, tu comprends? Allez, détends-toi. Il paraît que les dernières secondes de la vie vous apportent comme de la jouissance. Tu sais jouir, tu as de la chance, et grâce à nous, tu as deux beaux garçons pour jouir, et des garçons qui sont du bon monde. Félicitations, allez, au travail.
Les deux garçons maintiennent bien avec
Laurent.
Maintiennent bien les bras et les pieds.
Ce qui va se passer.
Penché sur lui.
Tiens-le bien, j'y vais. Et Gilles met la main, la plaque sur le visage. De façon à ce qu'il étouffe. Il lui serre son nez et la bouche. Il dit, maintenant, il faut attendre. Laurent essaye de se défendre. Il étouffe. Ses yeux sont horrifiés. Il ne peut plus respirer. Il voit rouge. Les yeux lui sortent de la tête. Les mains dégagent la bouche et le mordre, mais il ne peut pas. Il gesticule. Et voit, entend ses assassins. Il entend Gilles dire, quel con! Il se débat. Et plus il se débat, plus vite il mourra. Il dit à Laurent, tu vas voir le boulot. Il va bientôt jouir. Non, pas encore. Mais ça va venir. Allez, vas-y, dépêche-toi.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.